ce matin, c'est la suite de dimanche passé. Donc, on avait commencé sur la vraie nature du christianisme. On a vu les versets 1 à 4 et ce matin, on va continuer avec les versets 5 à 9. Comme résumé, on a vu que la vraie nature du christianisme commence et déclare qu'il y a enfin et dès maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont unis à Christ. Ceux qui ont cette relation avec Christ parce qu'ils ont connu cette nouvelle naissance, ce miracle de Dieu qui nous fait transporter du royaume des ténèbres au royaume de son amour et qui nous amène dans une union spirituelle avec Jésus lui-même. Et là, on est unis à lui pour l'éternité. Et là, comme point de départ, OK? Quand on commence la vie chrétienne, Dieu nous dit, enfin et dès maintenant, déjà, aucune condamnation. Êtes-vous convaincu de ça? Aucune condamnation. Dites-le, allez-y. Avec plus de conviction. Oh, avec une extrême conviction. Wow, là, c'est déjà. Et là, vous savez, quand à un moment donné, vous êtes découragé, quand que là, ça va pas bien, quand que là, dit, hey, ben là, tu sais, me semble que t'es pas un si bon chrétien que ça, là, regarde ce que t'as fait hier, qu'est-ce qui s'est passé, puis là, ça brasse en dedans, puis là, vous vous sentez coupable, ou peut-être je suis même pas chrétien, qu'est-ce qu'il y a, mais pourtant, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, j'y ai goûté, je sais que Dieu est là, mais là, il me semble que ça fonctionne pas. Qu'est-ce que vous devriez dire à ce moment-là? Avec plus de conviction que ça. Exactement. Regardez-vous dans le miroir aujourd'hui, après-midi, là, à ce soir, puis dites-vous, là, « Hey, gars, fille, aucune condamnation! » Ouais, mais là, écoute, il me semble que je suis tombé dans le même péché encore cette semaine. Regardez-vous dans le miroir, puis dites, « En Jésus, aucune condamnation! » Oui, confesse ton péché, mais... aucune condamnation. C'est impossible. Il peut pas y avoir une condamnation une fois que tu étais uni à Jésus. Impossible. Dites-le. Impossible. Plus fort.
Impossible.
Ah, j'aime ça. La conviction, c'est bon ça. Mais c'est quand même avec ça qu'on part. Aucune condamnation. C'est ça que le verset 1 de Romains 8 dit. Puis, tu sais, quand dans le contexte, là, il vient juste d'expliquer tout le dilemme qu'il vivait là entre le péché qui est encore là en lui et le fait que là maintenant, avec cette union avec Christ, il désire faire la volonté de Dieu, il désire mettre en pratique la loi de Dieu, il désire vivre en harmonie avec Dieu, mais il dit encore cette autre réalité-là qui est là et qui s'accroche à moi. Et là, il dit, qui va me délivrer? Et là, il dit, ah, gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus que je peux être libéré. Et là, il enchaîne. Et là, il vient en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Oui, la bataille est là. Oui, le combat est là. C'est un combat de toute notre vie. Tant et aussi longtemps qu'on va vivre, il va y avoir ce combat-là. Et certaines journées vont être pires que d'autres. Et à certains moments de notre vie, on va tomber, on va avoir de la difficulté, on va saillir. Mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous vous haïssez quand vous péchez? Pourquoi vous haïssez quand vous n'êtes pas en train de vraiment être ce que vous aimeriez être? Un peu comme Paul quand on voit dans le Romains 7. Pourquoi qu'on vit ça, ce trouble-là intérieur? Mais c'est parce que vous avez goûté à la grâce de Dieu. Parce que vous êtes né de Dieu, né d'en haut. Parce que maintenant, vous n'êtes plus simplement vous-même. Christ vit en vous. Et à cause de ça... ben, il y a des journées que vous n'êtes pas fier de vous-même. Et vous vous en voulez. Et vous sentez coupable. Là, des fois, on veut décrocher. Puis il y en a peut-être comme vous, comme moi, j'ai déjà fait, j'ai décroché pendant un certain temps. Mais il n'y avait aucune condamnation pour moi. Même si j'étais dans la désobéissance. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il dit, ça se passera pas comme ça. Tu m'appartiens. Tu es une de mes brebis. Et le berger, qu'est-ce qu'il fait quand une brebis s'égare? Il laisse les 99 qui vont bien, puis il va chercher celle qui s'est égarée. C'est ça le berger. C'est votre berger. Il vous a à l'œil. Mais pas d'une manière mesquine et en cherchant à vous faire du mal. Non, non, au contraire. Il veut vous emmener à vivre la vie abondante. Et ça, c'est la vie dans la paix et l'harmonie avec Dieu, dans la victoire sur la chair, dans la victoire sur le péché, sur le monde, et que là, vous goûtez à cette paix qui surpasse toute intelligence, et que là, quand vous avez sombré, tombé, éloigné, péché, et que là, tout à coup, Dieu vous parle et vous rappelle qu'il est là, et que vous pouvez revenir à la croix, et là encore, là, le rencontrer, et là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il nous accueille à chaque fois, puis il nous dit, « Benoît, aucune condamnation, c'est déjà tout pardonné. » Je comprends que tu as de la misère, je comprends que tu es déçu de toi-même, je comprends que tu as honte, je comprends que tu as de la culpabilité, mais c'est déjà tout arrangé, tout payé pour. Viens juste à moi, reçois encore mon amour, laisse-moi t'aimer, mon petit Benoît, laisse-moi remplir ton cœur de mon amour pour que là, c'est les réalités d'en haut qui vont prendre le dessus sur celles d'en bas qui t'attirent encore. Laisse-moi travailler en toi de manière à ce que de plus en plus tu sois libre du péché. C'est ça mon œuvre. C'est ça que je suis en train de faire, Benoît. Juste reviens à moi à chaque fois. Ne t'éloigne pas de moi. Écoute pas la voix de l'ennemi. Écoute pas, même pas la voix de ton cœur quand tu te sens condamné. Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Il est plus grand que notre cœur qui nous condamne. Et il nous ramène où? Toujours à la croix, toujours à l'amour de Jésus, toujours à cette réalité qu'en Christ, il n'y a maintenant déjà aucune condamnation. Amen. Je continue. On a vu aussi que l'amour de Dieu, par la mort de son Fils à la croix et notre union avec lui, nous a délivrés de sa colère. Donc, non seulement il n'y a aucune condamnation, mais il n'y a aucune possibilité de subir la colère de Dieu. Impossible. Elle a déjà été placée sur Jésus à la croix. Et là, nous, dans notre union avec lui, bien, on est délivrés à tout jamais de cette colère. Tout ce que Christ a accompli par sa venue est crédité au compte de ceux qui sont unis à lui. Donc, tout ce que Jésus a vécu par sa vie, son obéissance, sa crucifixion, son ensevelissement et sa résurrection nous est crédité. C'est comme si c'est nous qui l'avions fait. N'est-ce pas merveilleux, ça? Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est son amour qui va jusque-là. De pauvre qu'on était, vous savez, on est maintenant vraiment gâté. On est riche. On est riche parce qu'on a exactement ce que Christ est venu faire et qu'il a réussi à faire, accompli, et maintenant il nous le transfère dans notre compte de banque spirituel, dans notre rente, dans notre aide, dans notre avenir. Et tout ça, c'est grâce à lui. Et là, j'aimerais vous lire justement une portion du livre de Dane Ortlund, « Doux et humble de cœur ». C'est au chapitre 8 où il parle que Jésus, il est en train d'intercéder pour nous. Présentement, au ciel, à la droite de son Père, à chaque jour, il intercède pour vous, pour que vous ne lâchiez pas, pour que si vous trébuchiez, vous reveniez à lui. Pour que vous goûtiez de plus en plus à ce qu'il est venu faire pour vous, à sa grâce, à sa présence, à son amour, de manière à ce que intérieurement, constamment, vous êtes en train d'être bâti, changé, transformé. Il intercède. Il vous a toujours dans sa mire. Il veut votre bien. Il veut que vous expérimentiez la vie abondante. Mais voici ce qu'il dit. Être justifié revient à être déclaré juste aux yeux de Dieu, entièrement et légalement exonéré devant le tribunal divin, et cela grâce à ce que Jésus a fait à notre place. Or, il s'agit de la dimension la plus contre-intuitive du christianisme. C'est contre nature, contre notre nature à nous. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes devant Dieu, non pas dès lors que nous commençons à nous prendre en main, et que là, on commence à s'améliorer, à comprendre ce que Dieu veut pour nos vies. Puis là, on fait un petit peu des pas, puis des preuves. Mais non, dès lors que nous avons l'honnêteté de reconnaître que nous ne le ferons jamais, c'est-à-dire que nous serons jamais capables de nous améliorer par nous-mêmes. Et ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire, je ne l'ai pas, moi, Seigneur. Mais toi, peux-tu m'aider? J'ai besoin de toi. Viens à mon aide. Faites-le constamment. Pas une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, cent fois, mille fois. Constamment. Parce que lui, c'est ça qu'il cherche. Le mot « parfaitement » dans Hébreux 7, 25, quand il dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par la foi. Alors, le mot « parfaitement » signifie que le pardon, le salut, le toucher restaurateur de Dieu atteint jusqu'aux brèches les plus profondes, les plus intraitables, les plus laides, les plus irrécupérables et sombres de notre âme. Là où notre honte et notre dèche remplies de péché, de laideur, de honte, que l'amour de Christ se répand le plus. Son cœur l'y pousse le plus fortement. Il nous connaît parfaitement et nous sauve parfaitement parce que son cœur l'attire parfaitement à nous. Malgré notre laideur, malgré nos fautes, malgré nos difficultés et tout cela. Nous ne pouvons, malgré nos péchés, nous soustraire à ses tendres soins. Et ça, c'est contre-intuitif. T'es pas un bon garçon, ben, c'est ça, je veux pas que tu... Va-t'en dans ta chambre. Hein? Le Seigneur, lui, il se détourne pas de nous. Nous, on se détourne de lui, mais lui, il se détourne pas de nous. Christ ne nous pardonne pas en espérant simplement que nous tenions le coup jusqu'à la mort. Imaginez un planeur. Vous connaissez un avion qui n'a pas de moteur? Un planeur remorqué par un avion qui, lui, a un moteur, qui cesse de le tracter en ciel, le laissant par la suite planer jusqu'au sol. Nous sommes ce planeur. Autrement dit, on n'a pas de moteur, nous autres. Christ, lui, est l'avion. Mais il ne se détache jamais de nous, notre union avec lui. Contrairement à ce qu'on voit avec un planeur qui, lui, l'idée, c'est de le laisser aller un moment donné puis qu'il va planer jusqu'à temps qu'il atterrisse. Christ ne nous lâche jamais en nous souhaitant bonne chance et en espérant que nous parvenions à planer jusqu'au ciel. Non, il nous y transporte tout le long. C'est le but de son intercession devant son Père en notre faveur. Nous sauver parfaitement, malgré nos difficultés constantes, à vivre en nouveauté de vie et nos nombreux faux pas. Donc, l'œuvre qu'il a commencée, il va la continuer. Une des choses qu'il fait présentement, c'est son intercession. Et c'est quand même encourageant et rassurant de savoir que Jésus intercède pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Et là, il le fait constamment. Maintenant, Romains 5, 8 à 9. Qu'est-ce que Paul dit dans cette section? Voici. « En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, donc les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle en est même incapable. » Verset 8, « Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Tandis que pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. » Et là, il rajoute, « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et là, Paul vient, puis là, il déclare clairement ce qu'est le vrai christianisme. c'est d'appartenir à Dieu. Et on appartient à Dieu comment? Bien, à travers justement cette union avec Christ. Donc, il est simplement en train d'opposer ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Et ceux qui naturellement n'appartiennent pas à Christ, bien, ne pourront pas vivre ce que ceux qui appartiennent à Christ peuvent vivre. Et c'est ça un peu son point ici. Donc, la vraie nature du christianisme, on voit ici que Paul met au premier plan un autre aspect fondamental de la vraie nature du christianisme, sans lequel la foi chrétienne ne peut pas subsister. Ce n'est que de la religion, si ce point-là n'est pas là. Ça ne demeure que de la religion. Quel est cet aspect que Paul parle ici, que, sans lequel là, la foi chrétienne ne peut pas subsister? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un élément fondamental. Ici, si on n'a pas ça, ben on n'a pas la foi chrétienne. Exactement. C'est l'Esprit que Paul dit qui fait toute la différence. Quand l'Esprit vient habiter dans le cœur de quelqu'un parce qu'il s'est tourné vers Christ par la foi et qu'il l'a invité à venir dans sa vie et à recevoir Jésus, ce qu'il a fait à la croix, il croit que ce que Jésus a fait à la croix, c'est exactement ce qu'il avait besoin. Et il croit en Jésus, le Fils de Dieu, et il lui demande pardon, puis lui l'invite à venir à faire partie de sa vie. À ce moment-là, le Saint-Esprit, nous dit la Bible, emmène cette personne-là à vivre la nouvelle naissance que Jésus a parlé avec Nicodème dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Et ici, Paul nous montre que c'est l'Esprit qui fait toute la différence. Et vous savez, j'ai fait une découverte que je n'avais jamais remarquée précédemment. C'est la suivante. Dans le chapitre 8 de Romains, c'est le chapitre 8 de Romains qui est le chapitre de la Bible sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est parlé à plusieurs endroits, même dans l'Ancien Testament. OK? Mais le chapitre 8 de Romains, c'est le chapitre sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre qui parle le plus du Saint-Esprit. Paul en fait allusion 20 fois, seulement dans le chapitre 8, là. Je ne parle même pas de Romains ailleurs, puis tout ça, puis après ça, dans d'autres épîtres comme Galates et Éphésiens, puis ainsi de suite. Mais seulement dans le chapitre 8, le mot qui revient le plus souvent, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit, ou la référence à l'Esprit. Parfois deux fois dans le même verset. Donc, si je vous demandais, c'est quoi le sujet principal de Romains 8? Ce que vous devriez répondre, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait toute la différence. C'est aussi simple que ça. Et là, Paul est en train de dire, ce que je vivais dans Romains 7, là, ben là, je vous donne la réponse dans Romains 8. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. Il peut faire toute la différence si tu ne l'as pas, parce que tu n'as pas encore été réconcilié avec Dieu, tu n'es pas venu encore à Jésus, tu n'es pas encore uni à lui. Si tu es uni à lui, ben c'est lui qui va faire toute la différence dans ta vie. Et là, on comprend que si j'ai le Saint-Esprit, ben il y a quelque chose que Paul est en train de dire qui va se passer. Puis là, je vais juste vous nommer vite les références. Romains, par exemple, 8.2, Romains 8.4, 8.5, 8.6, ensuite 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.23, 8.26, 8.27. Vous pourrez prendre le temps d'aller les regarder et de lire. Ça vaut la peine de montrer à quel point, justement, c'est l'Esprit qui fait toute la différence. Et là, pour mettre en évidence, justement, cet aspect-là de l'importance de l'Esprit, puis montrer à quel point l'Esprit joue un rôle essentiel dans la vie chrétienne et dans la foi chrétienne, il va mettre en contraste ce qu'il a déjà parlé ailleurs aussi, qu'il a déjà fait mention, mais c'est la réalité de la chair et de l'Esprit. Donc ici, il dit il y a deux réalités qui existent. On ne peut pas s'en dissoudre, on ne peut pas les ignorer. Il y a celle de la chair, puis il y a celle de l'Esprit. Puis là, ces deux réalités-là sont opposées, c'est clair, c'est comme complètement l'eau puis le feu, on pourrait dire ça comme ça, entre elles, tout en ayant en même temps des caractéristiques en commun. Et là, ici, Les caractéristiques, par exemple, c'est qu'elles ont toutes les deux un style de vie. Elles ont toutes les deux des tendances. Elles ont toutes les deux des fruits qu'elles vont porter. Elles ont toutes les deux une capacité. Puis elles ont toutes les deux un statut. Et elles ont toutes les deux une emprise. Par exemple, la chair. C'est quoi son style de vie à la chair? Bien, c'est de vivre selon les intérêts de la chair. Et d'être préoccupé par les choses que Paul va dire en Colossiens 3, 2, d'en bas, les choses de la terre, les choses physiques, concrètes. Hein? C'est ça qui est ma préoccupation. Les tendances maintenant de la chair, bien, c'est d'être à l'écoute de la chair, c'est-à-dire de constamment prendre en compte, et on est dans une culture là, de plus en plus qu'on entend comment les gens sont à l'écoute de leur chair ou de leur moi, de leur désir, et justement d'assouvir ces désirs-là qu'ils veulent poursuivre. Et là, on voit ça aussi dans Galates 5, 17. Les fruits, maintenant, Paul dit ici, c'est la mort. Alors ça, c'est un des fruits. Donc, ceux qui poursuivent les désirs de la chair, le fruit qui va sortir de ça, c'est la mort. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vie avec ça, c'est impossible. Et ailleurs, comme dans Romains 6, 19, ben, il va parler des passions dégradantes et immorales qui sont liées à la chair. Donc, on va ceux qui vivent selon la chair vont se livrer à des passions comme ça, dégradantes, immorales. Et au chapitre 6 encore, et verset 21, il va parler même des passions qui sont honteuses, des choses qu'on n'est pas fier de, qui sont pas belles, là, tu sais. Et donc, ça fait partie des fruits de la chair. Maintenant, sa capacité, c'est quoi la capacité de la chair? Qu'est-ce que la chair nous rend capable de faire? Bien, en fait, Paul, il dit, elle est premièrement incapable de se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible, là, qu'elle puisse honorer ce que Dieu dit, c'est complètement hors de question. Mais par contre, ce qu'elle est capable, et là on le voit au chapitre 10, verset 21 de Romains, elle va être capable de se rebeller contre Dieu et de désobéir à Dieu. Ça, elle est bien capable de faire ça. Fait que quand vous désobéissez, quand vous avez de la misère à suivre ce que Dieu vous demande à faire sa volonté, ben ce que ça veut dire, c'est que votre chair a trop de place. Elle a trop encore une grippe sur vous. Soit que vous n'êtes peut-être même pas né de nouveau, ce qui n'est pas impossible, ou que vous êtes né de nouveau, mais que vous avez de la misère. Et la raison pourquoi vous avez de la misère, c'est parce que la chair a trop une grande place encore, ou elle a trop une influence encore sur votre vie. Et là, son statut, c'est quoi? Ben, Paul dit, c'est être ennemi de Dieu, tout simplement. Alors, ceux qui veulent plaire à la chair sont ennemis de Dieu. Et son emprise, finalement, eh bien, son emprise, c'est le péché, c'est les désirs de la chair, c'est le monde, c'est le diable. Et là, on voit ça à différents endroits, comme 1 Jean 2, 15 à 17, et 1 Jean 5, 19, qui nous parle un peu de l'emprise de la chair, qui, justement, c'est le péché, c'est d'obéir au désir de la chair, au monde, d'être influencé par le monde, et en plus d'être sous l'emprise du diable. Et donc là, le diable a tout un entrant dans la vie. Et on voit dans Éphésiens que Paul dit, ben donnez pas accès au diable. Comment est-ce qu'on donne accès au diable? Ben c'est en péchant, puis en confessant pas ces péchés-là. Si on laisse des péchés dans notre vie, ben là, c'est comme une petite porte ouverte pour lui pour venir encore plus nous gosser, puis encore plus nous tabasser, puis encore plus nous emmener à vouloir s'éloigner de Dieu parce qu'on se sent coupable, on se sent pas correct. Autrement dit, le diable, plus on s'éloigne de la croix, plus on s'éloigne de la source de vie, de la source de la solution pour nous sortir de ça, ben lui, il est heureux, tu vois, parce que là, lui, la croix, là, il peut pas rien faire à ce niveau-là. Là, il perd complètement tous ses moyens, et la chair perd tous ses moyens, le monde perd tous ses moyens, parce que là, tout à coup, on goûte à la puissance de Dieu, parce que c'est à la croix que Dieu a manifesté l'ampleur de sa puissance et la victoire sur le péché, la chair, le monde et le diable. Tandis que l'esprit, ben, c'est le contraire, hein? Au niveau de son style de vie, ben là, lui, il veut vivre selon les intérêts de l'esprit. Il est centré, comme Paul dit dans Colossiens 3:1, sur les choses d'en haut. C'est comme là, il est préoccupé par les choses de Dieu, par la volonté de Dieu, par plaire à Dieu, par honorer Dieu. Et là, c'est toute cette réalité-là qui prend le dessus dans son cœur. Ses tendances, mais c'est d'être à l'écoute de l'Esprit et d'accomplir les désirs de l'Esprit. C'est là que l'Esprit vient et fait toute la différence. Il nous emmène ailleurs. Il nous emmène à être différents et à pouvoir vivre pour Dieu. Son fruit ou ses fruits, bien, c'est la vie et la paix, dit Paul. Et aussi, dans Romains 6, 22, on voit qu'un des fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est la sanctification, c'est-à-dire la transformation, la libération par rapport au péché, la chair et tout ça. Sa capacité, bien, naturellement, l'Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va nous emmener à nous soumettre tellement facilement à la loi de Dieu et à obéir à sa volonté. Là, tout à coup, on se sent dynamisé, on se sent capable de faire ce que Dieu veut. Parce que là, c'est l'Esprit qui, naturellement, nous donne cette capacité-là. Son statut, qu'est-ce que l'Esprit amène? Bien là, ça nous amène à être nés de l'Esprit, Jean 3:3, à appartenir à Christ, comme il dit ici, avec cette union avec Christ, et à être un membre de son corps, dans Romains 12:5. C'est ça notre statut maintenant en Jésus. Et son emprise, bien là, ça va être la soif de Dieu, la soif de justice, les désirs de l'Esprit, faire la volonté de Dieu, être en harmonie avec Dieu. Alors, Romains 6, 18, Galates 5, 17, Matthieu 6, 33, qui nous dit de chercher le royaume de Dieu et sa justice, Éphésiens 6, 6. Alors, tout ça nous montre l'influence importante de l'Esprit et qu'est-ce qui va être son emprise sur nous. Alors, la vraie nature du christianisme, elle est fondée sur notre pleine justification. Ça, c'est aucune condamnation. Et par conséquent, l'absence de toute condamnation grâce à notre union avec Christ par la foi. On voit ça au verset 1. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Elle est également fondée sur notre pleine sanctification. Et par conséquent, la transformation par l'Esprit, c'est-à-dire libération de l'emprise de la chair grâce à notre union encore là avec Christ. Autrement dit, notre union avec Christ nous amène non seulement d'être justifiés, donc d'avoir la justification, le pardon de nos péchés, il n'y a aucune condamnation, mais ça nous amène aussi à vivre maintenant une vie qui est en harmonie avec Dieu. Et là, on est en train de laisser Dieu nous transformer jour après jour, et c'est à cause de son œuvre en nous qui s'est fait par la foi avec notre union avec Christ. Donc ça, c'est vraiment important et parfois c'est négligé ce côté-là de la sanctification. Parfois, on dit oui, je suis justifié, mais là maintenant, il me reste à la sanctification. Puis là, c'est un gros bout, là, tu sais, ça c'est une grosse affaire. Puis là, il faut travailler là-dessus, puis là, il faut vraiment être sérieux à ce niveau-là. Et je dois arriver à la sanctification, parce que ça dit aussi dans les Écritures que il y a pas personne qui va voir Dieu si il est pas sanctifié là. Alors ça prend absolument la sanctification pour aller au ciel. Mais là, quand on comprend que l'union avec Christ nous donne non seulement la justification, mais aussi la sanctification, ben là c'est l'œuvre de Dieu. À partir du moment où je suis en relation avec Dieu par Jésus-Christ et que j'ai goûter à ce pardon et à cette justification, et que là, l'Esprit maintenant fait partie de ma vie, eh bien là, lui va accomplir ce que Dieu a dit qu'il allait faire. C'est pour ça que le verset qui dit « Jésus va terminer l'œuvre qui a commencé en nous », bien là, il parle de la sanctification. L'œuvre qui a commencé en nous, c'est la justification. C'est de nous emmener dans la game, c'est de nous emmener à avoir cette nouvelle nature, être né de l'Esprit. L'Esprit maintenant est en moi et l'Esprit va venir faire toute la différence. Et là, Jésus va accomplir cette œuvre de sanctification. Donc, il va la rendre parfaite pour son jour, qui est le jour de Jésus-Christ. Et en plus, comme on a vu tantôt, il intercède aussi pour nous. Fait que donc, il intercède pour que l'Esprit, justement, vienne et continue son travail de sanctification dans notre cœur. Il est constamment en train de prier pour nous. Comme il a fait avec Pierre quand il était là, puis il a dit, « Pierre, j'ai intercédé pour toi. » Pourquoi? Et je sais que là, tu vas être attaqué par le diable et tu vas tomber. Tu vas me renier. Ah non, non, Seigneur, jamais, jamais dans 100 ans. Hey, moi, pas moi. Pierre, j'ai prié pour toi. Jésus l'avertit d'avance. Pierre, il comprend pas. Il croit pas vraiment ça. Mais Jésus, non, 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 regarde. Pierre, j'ai prié pour toi. Puis à un moment donné, tu vas voir. Tu vas revenir à moi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a rencontré. Hein? Après que Pierre l'ait renié. Il a préparé toute la scène avec le repas et tout ça. Il a montré sa grâce. Il n'a pas chicané. Il n'a pas dit, hein, ouais, mon espèce de, tu sais, il dit que je t'ai choisi, là. T'sais? Puis là, en plus, je t'ai dit que tu serais celui qui aurait les clés du royaume. Que sur cette pierre, je bâtirais mon église. Là, tu me laisses tomber en moins d'occasion. Non, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour qu'il puisse être restauré. Pour qu'il puisse être transformé. Et Pierre n'a plus jamais été le même par après. Oh, il a fait encore des niaiseries, il a fait encore des bêtises, il a eu encore de la misère avec Dieu, avec la volonté de Dieu. Il a prié à un moment donné. Il voyait les animaux qui descendaient. Il disait, oh non, Seigneur, moi, je ne mangerai jamais quelque chose qui était un peu. Puis je dis, non, 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 c'est impossible, Seigneur. Puis là, non, non, Pierre, regarde, maintenant, ce que j'ai déclaré peu, c'est peu. Puis, vas-y, puis à un moment donné, Corneille arrive, ben, pas Corneille, ceux qui ont été envoyés de la maison de Corneille, puis là, à un moment donné, il lutte en dedans, là, il commence, je vais aller dans une maison, moi, là, de gens qui sont pas des Juifs. Moi, je peux faire ça, mais là, à un moment donné, il fait 1+1, puis là, il comprend que c'est Dieu qui veut qu'il aille voir Corneille et sa famille, lui annoncer l'Évangile. Et Dieu rencontre cette famille, la transforme, la sauve. Et plus tard, Pierre se lève et dit, écoutez, voyez ce qui s'est passé. Comment, moi, est-ce que j'aurais pu refuser? Et là, Pierre est transformé. Sa pensée est transformée. Il est en train d'être réformé par Dieu. Après ça, on sait que avec Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre avait tombé dans une espèce de complicité. Puis là, avec des judaïsants qui leur venaient à la loi, puis la pratique de la loi, puis là, Pierre, il est là, puis là, il veut pas déplaire à personne. Fait que là, il arrête de se tenir avec les non-juifs qui sont chrétiens. Puis là, Paul, il voit ça, puis il reprend Pierre. Est-ce que Pierre a résisté? Est-ce que Pierre a dit, hey, tu gars, là, tu t'appelles peut-être Paul, mais moi, je m'appelle Pierre. J'ai reçu les clés du royaume. Tu viendras pas me confronter. Non, parce que Pierre a l'Esprit de Dieu. Et là, Pierre reconnaît que Paul a raison. Il s'humilie. Il fait ce qui est nécessaire. Vous voyez, c'est la transformation. C'est l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de celui qui s'est réconcilié avec Dieu. Alors, c'est l'union avec Christ qui rend possible la justification et la sanctification. On ne peut pas commencer par la sanctification pour aller à la justification. Ça, c'est l'erreur que la religion fait. On doit s'améliorer pour ensuite être sauvé. Non, 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 non. On commence avec le début qui est la justification parce que c'est là qu'on est de Dieu et ensuite, on peut entrer dans la sanctification, et ça, c'est justement l'œuvre de Dieu. C'est la sanctification. Excusez, la sanctification ne produit pas la justification. La sanctification, c'est le fruit de ma justification en Christ et non pas la cause. Toutefois, la certitude qu'on est justifié grâce à notre union avec Christ, qu'est-ce que vous pensez que ça fait en nous? Ben, ça suscite en nous un désir de vivre pour Dieu, sachant qu'on est pardonné, accepté, accueilli par Dieu. Aucune condamnation. Et là, oui, ça nous motive aussi d'entrer en guerre contre le péché, grâce justement à la présence de l'Esprit en nous. Donc, ça a un effet bénéfique de savoir qu'on est pleinement justifié pour avancer dans notre sanctification. Et c'est ça que Paul dit, dans le fond, au verset 2, lorsqu'il introduit justement la contribution de l'Esprit à notre sanctification, quand il dit, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. » Là, il parle de la loi de l'Esprit de vie. Là, il parle pas de la loi de Moïse. Là, il parle de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Alors ici, Paul, quand il parle de la loi, il parle de quoi? Ben, il parle en fait d'un principe. Et ici, le mot « loi », au verset 2 que Paul utilise, mais il fait référence à la même chose, mais pas dans la même direction. C'est-à-dire la loi, dans les deux cas, fait référence à un pouvoir ou à un principe ou à une autorité que l'esprit et ou le péché exercent sur nous. Donc, c'est soit l'esprit qui agit en nous ou c'est le péché qui agit en nous. Alors, quand il parle de la loi de l'esprit, la loi du péché, il parle de deux pouvoirs, de deux influences, de deux interventions dans nos vies, et c'est soit l'une ou soit l'autre. On comprend que si c'est l'esprit, ben là, ça nous amène à la liberté, à la vie, à la joie, à la paix avec Dieu. Si c'est le péché, ben là, c'est tout ce que ça l'entraîne comme difficulté, comme on a vu tantôt. Alors, un engendre la vie, ça c'est la loi de l'esprit, tandis que l'autre engendre la mort, c'est la loi du péché. En conclusion, ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fil conducteur de la vraie nature du christianisme, c'est vraiment l'union avec Christ. Parce que l'union avec Christ nous libère du verdict de culpabilité, ce que la loi ne pouvait pas faire. Bien au contraire, la loi nous condamne. Deuxièmement, l'union avec Christ nous libère de la colère de Dieu. Alors ici, ce que la pratique de bonnes œuvres ne pouvait pas faire, faire des bonnes œuvres ne peuvent pas apaiser la colère de Dieu. Impossible. C'est pas comme dans les religions où ils offraient des offrandes pour apaiser la colère de leur Dieu, là. Ici, c'est pas des bonnes œuvres ou des offrandes. C'est seulement l'union avec Christ, parce que c'est son Fils qui a subi cette colère-là. Troisièmement, l'union avec Christ nous libère de notre dette tout en nous créditant tous les bienfaits de Christ. Ce que la religion ne pouvait pas faire. Impossible. On ne pouvait pas avoir dans notre compte de banque ces bienfaits que Christ nous apporte. On ne pouvait pas y arriver par la religion. Et quatrièmement, l'union avec Christ nous libère de l'emprise de la chair en nous plaçant sous l'emprise de l'esprit. C'est la seule façon de vivre en nouveauté de vie. C'est d'être sous l'emprise de l'esprit. Ce que nos propres efforts ne peuvent pas faire. C'est impossible par nous-mêmes de vivre en nouveauté de vie et de réussir à vivre pour Dieu. C'est seulement notre union avec Christ à cause du Saint-Esprit qui vient et qui a tout ce rôle et cette influence en nous. Tous ceux et celles qui sont unis à Christ par la foi sont, dès le jour 1, justifiés. Aucune condamnation, dès le jour 1. Deuxièmement, réconcilié avec Dieu en paix et en sécurité, dès le jour 1. Troisièmement, bénéficiaire de tous les bienfaits de Christ, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, dès le jour 1. Et quatrièmement, sous une nouvelle administration. J'aime ça. C'est une idée qui m'est venue de le dire comme ça. Mais j'aime l'idée de dire comme ça. On est sous une nouvelle administration qui est celle de l'Esprit de Dieu. C'est la capacité de dire non au péché, de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit et d'être transformé. Vous savez, j'ai une petite... j'en ai deux, en fait. Ouais. Deux images de qu'est-ce que c'est que d'être uni avec Christ et de voir l'Esprit de Dieu qui vient et qui prend cette nouvelle administration et qui nous amène ailleurs, qui nous amène maintenant à vivre pour Dieu, à obéir à Dieu, à se relever des nombreuses fois qu'on va trébucher, mais de se relever et d'aller un peu plus loin et de grandir jour après jour. Des fois pas tellement, mais d'autres fois plus. Puis à un moment donné, on fait un bon saut d'une coupe de pied. On a grandi en une coupe de semaines parce que là, Dieu a fait une œuvre exceptionnelle. Il nous a touchés par une vérité, par peut-être un message, par quelque chose que j'ai vécu, même un échec. Dieu est capable de prendre nos échecs et de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait si on n'avait pas fait cet échec-là. Ça, c'est la grâce de Dieu par excellence. Mais Dieu est capable de faire ça. Mais vous comprenez, des fois, on n'avance pas, on n'a pas l'impression d'avancer, mais Dieu ne nous lâche pas. Puis là, à un moment donné, il nous rencontre Et là, whoop, on vit une victoire. Alors, l'idée que j'ai, puis là, je n'aimerais pas ma source, je garde ma source pour moi-même, d'aller comprendre pourquoi. Mais quand j'ai des problèmes d'ordinateur, j'ai quelqu'un que je fais appel. Il est gentil parce qu'il me dit tout le temps oui. Puis moi, je suis dépassé, j'essaie tout ce que je peux, là. Vous comprenez, là, je vois un petit peu, là, ben, tu sais, il y a des choses que je sais faire, ta-ta-ta. Ben, j'essaie, mais le problème est encore là. Là, je l'appelle. Savez-vous ce qu'il fait? Il me dit, là, j'ai installé un logiciel, un programme. Là, il dit, donne-moi accès à ton ordinateur. Et il me demande la permission d'avoir accès à mon ordi. Lui est chez eux, moi, je suis chez moi. Il m'envoie une demande et je dois accepter. La seule chose que j'ai à faire, c'est touc, cliquer sur « Accepter ». Là, tout à coup, whoop, je vois ma souris bouger. Là, whoop, ça va vite. Là, il dit « De temps en temps, parce qu'il faut que ça redémarre, donc la connexion se coupe. Puis là, on est en contact au téléphone. Parce que là, ça coupe. Fait que là, il dit, OK, là, il faut que tu me redonnes accès. Là, encore le petit message. Je redonne accès. Puis là, comme ça. Puis là, moi, je le regarde aller. Puis là, il réussit à faire des choses que moi, j'aurais jamais été capable de faire. Mais savez-vous, ce que l'Esprit fait, là, c'est qu'il est constamment en train de nous demander accès. Donne-moi accès. Laisse-moi faire. Tout ce que tu as besoin, c'est de me donner accès. Moi, je vais prendre le contrôle. Puis, je ne ferai jamais du mal. Je vais toujours faire le nécessaire pour libérer ce qui ne va pas dans ton cœur, dans ta vie, ce qui t'emmène à vivre ce que tu vis. Je vais prendre la bonne parole de Dieu, puis je vais l'emmener à ton cœur. Je vais prendre quelque chose qui est là, qui ne devrait pas être là. Et un moment donné, je l'ai vu faire. Tu sais, il est allé un moment donné dans le cœur de l'ordinateur. Après avoir essayé plein d'affaires, puis un moment donné, il dit, regarde, vois-tu, là, ça, là, là, je dis, ouais, je le vois, là, mais ça, là, ça n'a pas d'affaire là. C'est ça ton problème. Ah, ouais. Alors, moi, j'aurais jamais été capable d'aller là, premièrement, puis j'aurais jamais détecté ça non plus. Mais lui était capable. Puis, aussitôt que, clac, il a enlevé ça, tout, pa! Parti tout ça, parti les problèmes, c'est jamais revenu. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Tout ce qu'on a besoin, c'est lui donner la permission. Mais ça, on ne fait pas ça une fois dans notre vie. Moi, je l'ai appelé souvent, là, peut-être même il me trouve tannant un petit peu. J'essaie des fois, je sais pas si ça ne dérange pas, puis je sais qu'il est occupé, tout ça. En tout cas, ça pour dire que des fois, on a l'impression de déranger Dieu aussi, hein? Là, il me semble que ça fait tellement de fois là, que là, je ne peux pas encore lui demander ça. Là. Faites-vous-en pas. On ne le dérange jamais. Lui, là, il est tellement content quand on dit, « Peux-tu m'aider, Seigneur? » Ça ne va pas bien. Il y a de la misère. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Vous savez, je le vois régulièrement, comment que quand on fait appel au Seigneur, autant dans ma vie que dans ceux que j'accompagne, que le Seigneur est toujours fidèle, puis il intervient. Accepte. Deuxième illustration. Les Canadiens de Montréal. Désolé. Les Canadiens de Montréal. Qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens de Montréal? Il y a une nouvelle administration. OK? Et donc, dans cette nouvelle administration, un nouveau coach. S'appelle Martin Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qui se passe avec depuis que le nouveau coach est là puis la nouvelle administration est là? Il gagne! Voilà, Charles, il gagne! La même équipe qui était au dernier rang, il n'y a pas si longtemps, 7 victoires en 8 matchs. 7 victoires en 12 matchs, mais 7 victoires d'affilée en 8 matchs, ou presque, là, ils ont perdu une game là, sur les 8. Transformé. Même équipe. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle administration. Ça fait une différence? Est-ce que ça va faire une différence longtemps? Ça va dépendre s'ils écoutent la nouvelle administration. Hein? Comment ils répondent? Puis même Martin Saint-Louis, il dit, écoute, il dit, moi, là, j'ai joué, là, OK? Mais là, c'est pas moi qui joue, là, c'est eux autres. Puis moi, il dit, tout ce que je fais, là, c'est que je suis là pour simplement leur dire, écoute, vas-y, fais ça, joue ta game, je leur donne confiance. Je les conseille un petit peu, mais en même temps, c'est pas moi qui joue à la game, c'est eux autres. Mais juste le fait qu'il est là derrière le banc, pour les gars, là, il semble que ça a fait une différence. Hey, petite nouvelle ce matin. Jésus, c'est notre coach. Le Saint-Esprit, c'est notre nouvelle administration. Dieu le Père, c'est notre Père céleste. Hey, come on, gang. Let's go. Qu'est-ce qui nous attend? Acceptez. Écoutez les conseils. Laissez Dieu intervenir dans votre vie. Je comprends qu'il y a des dimensions. Je comprends que, tu sais, c'est pas juste simple de peser sur un petit piton, là. Il n'y a pas de petit piton. Mais intérieurement, c'est demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on se tourne vers toi ce matin. On te rend grâce, Seigneur, pour ta parole. On te rend grâce pour Romain. Seigneur Dieu, c'est tellement bon de voir ce que toi, tu es le seul capable d'accomplir en nous. Et grâce à notre union avec Christ, tout ce que tu nous as apporté et le fait, Seigneur, que non seulement tu nous as sauvés, que tu nous as pardonné nos péchés, qu'on n'a aucune condamnation qui pèse sur nous, mais Seigneur, tu es encore là en train de travailler dans nos vies, travailler dans nos cœurs, d'intervenir constamment, de nous ramener à toi, de nous ramener à la croix, de nous emmener à crier à toi, de nous emmener à accepter ton intervention dans nos vies. Seigneur, ce matin, ce que je te prie, ce que je te demande, Seigneur, touche les cœurs de mes frères et sœurs, touche ceux qui sont à la maison, qui ont écouté ce matin ou ceux qui vont écouter. Seigneur, que ce soit justement ton esprit qui éclaire, qui ouvre les yeux, qui aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pratiquement parlant pour moi que d'accepter que tu interviennes dans ma vie, que je te laisse la place qui te revient. Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner, Seigneur? Peux-tu le montrer? Peux-tu montrer qu'est-ce qui empêche à ton esprit d'agir comme il voudrait agir pour que justement il puisse te laisser ça, te le donner? Dis, Seigneur, prends-les. Seigneur, je te demande d'enlever ça de ma vie. Et Seigneur, s'il y a quelque chose aussi que tu veux apporter au cœur, une compréhension, une vérité, mais qu'encore là, Seigneur, par ton esprit, peux-tu ouvrir les yeux du cœur comme Paul priait dans Éphésiens, afin qu'on comprenne la grandeur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ. Seigneur, c'est en ton nom que je te le prie. Et je te remercie encore, Seigneur, pour toutes ces belles vérités de ta parole. Amen.